Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngalula.
Au sommaire de ce journal, les tribunaux militaires décident de poursuivre les procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai. Dans son jugement avant dire droit prononcé hier mardi à la prison militaire d'Ndolo, le tribunal s'est dit compétent de juger des civils par le fait qu'ils détenaient illégalement des armes létales. La RDC et le Tchad signent un accord d'exemption réciproque des visas pour les citoyens des deux pays. Accord signé hier mardi lors du séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi à N'Djamena. En tout cas, les Congolais comme les Tchadiens peuvent désormais se fréquenter mutuellement sans exigence réciproque des visas pour entrer dans les deux pays respectifs. Véronique Atanjo, inspectrice principale de la province éducationnelle du Congo central 2, est l'invitée de ce journal. Préoccupée par la faible participation des élèves finalistes à l'examen d'État dans les filières de développement, elle motive finalistes et parents à s'intéresser à ces branches en vue de lutter contre la faim et la malnutrition au Congo central. Bonjour. Procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai, le tribunal militaire décide de poursuivre la procédure. Il rejette ainsi toutes les exceptions soulevées par la défense. Le tribunal militaire dit reconnaître sa compétence à juger les prévenus et refuse de leur accorder la liberté provisoire sollicitée par crainte de les voir se soustraire des poursuites et par manque de preuves des tortures et des maladies. C'est une des motivations de son jugement avant dire droit prononcé hier mardi à la prison militaire d'Ndolo. Reportage de Jeff Ngoy.
Le tribunal motive encore son jugement sur sa compétence à juger des civils par le fait qu'ils détenaient illégalement des armes létales et sont poursuivis notamment pour terrorisme, attentats et tentatives d'assassinat, infractions dont la justice militaire est compétente, conformément au code judiciaire militaire. Il rappelle une des jurisprudences en cette matière, à savoir l'ancienne affaire du pasteur Coutinho Fernando qui fut arrêté avec des armes létales et jugé par une juridiction militaire à l'époque tout en étant civil. De tous les procès-verbaux, seul le PV de l'OPJ de l'ANR ayant auditionné l'expert militaire belge Jean-Jacques Ondo a été rejeté. Mais le tribunal y fera recours à titre de renseignement. Réaction mitigée des avocats de Ondo, Carlos Nguapichi et Peter Ngomo.
En ce qui concerne M. Jean-Jacques Ondo, il faut noter que le tribunal a effectivement constaté l'absence de mentions substantielles dans les procès-verbaux de l'ANR.
Les juges, dès lors qu'ils déclassent un PV, ce PV ne peut plus revenir. Un procès-verbal, on ne sait même pas qui l'a établi. C'est pas un document, voilà. Le tribunal avait qu'à retirer ça. C'est une grande victoire quand même. Que de tout le monde, là, il n'y a que notre PV qui a été rejeté.
On en finit ainsi sur le plan de la forme. Dès lundi prochain, le tribunal débute l'instruction du fond de ce dossier.
Les Congolais comme les Tchadiens peuvent se fréquenter mutuellement sans exigence réciproque des visas pour entrer dans les deux pays respectifs. Cette convention est contenue dans un accord signé hier mardi lors du séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi à N'Djamena. Billy Ivan Lutumba nous en parle.
Au total, ce sont trois accords que les deux parties RDC-Tchad signent en ce jour, dont celui portant exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays. Le second porte sur la coopération globale, alors que le troisième accord concerne les consultations diplomatiques régulières. Ces accords ont été signés par les ministres sectoriels des deux pays, en présence des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Mamad Idriss Déby Itno. Dans les prochains jours, il est programmé la grande commission mixte RDC-Tchad qui aura lieu à Kinshasa. Lors de cette visite du président Tshisekedi à N'Djamena, les autorités tchadiennes lui ont témoigné leur reconnaissance pour son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC dans la résolution pacifique de la crise politique dans leur pays selon la présidence congolaise. C'est en cela que le président congolais a inauguré une avenue rebaptisée en son nom par les autorités tchadiennes au cœur de la capitale N'Djamena. Il est également élevé à la dignité des grands croix dans l'ordre national du Tchad, la plus grande décoration honorifique de ce pays.
Et puis, c'est la ville de Bukavu dans le sud Kivu qui accueille Judith Suminwa depuis qu'elle exerce les fonctions de première ministre. Elle s'y est rendue hier mardi pour participer à la cérémonie de fermeture officielle de la représentation de la MONUSCO dans cette province. Mais nous en parlons dans ce journal, mais voyons d'abord ce qu'a dit la première ministre à la population de Bukavu venue l'écouter lors de son tout premier meeting. Elle a évoqué presque tous les problèmes auxquels son gouvernement compte apporter des réponses. C'est notamment la sécurité, les infrastructures routières, l'éducation et l'amélioration du social de la population. Jean Kassami a couvert l'événement.
Dans son discours, Judith Suminwa, accompagnée de ses quatre ministres, a mis la foule en confiance lorsqu'elle a dit, je cite, « En tant que femme, mère, fille et grand-mère, j'ai l'obligation d'apporter des solutions aux problèmes des filles et fils d'ici qui vous font des citations. » La première ministre.
Tous les dossiers qui vous concernent pourront être pris en charge par notre gouvernement. Pour moi, le plus important au cours de cette visite, c'est aussi vous écouter.
Un discours qui suscite l'espoir d'un lendemain meilleur. La population souhaite que la première ministre puisse lier l'acte à la parole.
Nous sommes très très contents. Une fois il y aurait matérialisation. Mais le problème est que dans ce pays, il n'y a que des théories, mais pratiquement, on ne parvient pas à réaliser ce qu'on a promis. Mais si on promettait et qu'on parvient à réaliser ce qui a été dit, serait mieux vraiment.
Les sinistrés de l'incendie du quartier Nyamugo dans la commune de Kadutu sont les toutes premières personnes à bénéficier de l'assistance du gouvernement par le biais de Judith Suminwa. Son agenda prévoit des visites sur les tronçons routiers en chantier Bukavu Nyangezi Ngomo et Bukavu Alungu Mwenga. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Venons-en à présent à la cérémonie de fermeture de la représentation de la MONUSCO dans le sud Kivu. Après 22 ans de présence dans cette province, les bureaux de la mission onusienne à Bukavu cessent donc ses activités. C'est la suite logique du processus de désengagement de la mission dans cette province déclenché depuis janvier 2024. La cérémonie de fermeture a eu lieu hier mardi 25 juin à l'aéroport de Kavumu dans les territoires de Kabare. C'était en présence de la chef de la MONUSCO Bintou Keita et de la Première ministre Judith Suminwa. Dans son adresse, la chef de la MONUSCO a notamment remercié les personnels civils et en uniforme de la mission qui a contribué à la paix et à la sécurité dans le sud Kivu. Elle revient ici sur l'apport de la mission dans cette province. Bintou Keita dans ses propos recueillis par Rachel Kiesse.
Depuis 2002, la présence de la MONUSCO au sud Kivu a permis d'assurer une protection physique directe à près de 3 millions de personnes et de soutenir les FRDC par le biais d'opérations conjointes, de patrouilles, de renforcement des capacités et d'évacuation médicale. La mission a contribué à la mise en place de dizaines de comités de protection locaux et de réseaux d'alerte. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les autorités et les communautés locales pour adresser les causes profondes du conflit en encourageant le dialogue et la cohésion sociale, en développant les infrastructures, en améliorant les droits de l'homme, en renforçant les capacités de la police, de la justice et des systèmes pénitentiaires dans la province. Au cours des 20 dernières années, la MONUSCO a aidé à démobiliser plus de 4600 combattants et enfants associés à des groupes armés et a collecté et détruit plus de 44 000 munitions et explosifs. La mission a joué un rôle central dans de multiples cycles électoraux, transportant 30 000 kilos de matériel électoral dans les circonscriptions électorales du site Kivu.
Prenant la parole au nom du gouvernement et en présence de la première ministre Judith Suminwa, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a lui aussi remercié la MONUSCO pour le service rendu. Le nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu a lui aussi pris la parole. Rachel Kiesse.
C'est donc un double événement en ce jour. La fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu et l'arrivée de la chef du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais exprime sa gratitude envers la mission onusienne. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
La République démocratique du Congo reconnaît le travail ô combien louable que la MONUSCO a réalisé en sa faveur. Je profite de cette circonstance pour remercier tous les pays contributeurs des troupes, le personnel civil et militaire dont l'apport aura permis à la MONUSCO de réaliser les différents mandats lui confiés par le Conseil de sécurité.
Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourroussi, promet de pérenniser les acquis de la MONUSCO.
Je termine donc ce mot en invitant tous nos partenaires qui voudront pérenniser ces acquis à travailler la main dans la main avec le gouvernement provincial. Nous n'allons ménager aucun effort pour leur assurer la sécurité, la protection voulue.
Signalons qu'une donation de divers équipements et d'une vingtaine de véhicules a été faite aux autorités congolaises. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la population kinoise attend beaucoup de Daniel Bumba, le nouveau gouverneur, notamment sur la sécurité, les sociales ainsi que sur l'assainissement de la ville. Le tout nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa est entré en fonction à l'issue de la cérémonie des remises et reprises le vendredi 21 juin dernier. Arcel Kajourou a recueilli les avis des Kinois. Elle nous en parle dans ses reportages.
Plusieurs Kinois rencontrés disent être découragés. Ils affirment ne rien entendre du nouveau gouverneur. D'autres gardent espoir et parmi leurs attentes, ils espèrent une solution au problème d'embouteillage et de la criminalité.
Et surtout, ce qui pose problème sur le problème d'embouteillage, ce sont des motards, des taximens qui font ça. On quitte à 6h, on arrive en ville à 9h, cause des embouteillages.
Vous voyez, le problème des colonnes, ça a toujours persisté.
Pour de nombreux Kinois, un des défis majeurs demeure la création d'emplois. Surtout pour les jeunes.
Il faut donner la chance aux jeunes par la création des emplois premièrement. Si aujourd'hui, nous jeunes, nous nous retrouvons avec un emploi qui nous permet de nous en sortir dans telle ou telle situation, ça sera un réel plaisir. Et cela va réduire d'un côté la hausse du taux de criminalité.
Plusieurs ont insisté sur l'assainissement et l'accès à l'eau potable, ce qui va améliorer la santé de la population.
Vous remarquez vous-même que là où nous sommes, les immondices, c'est presque partout, il n'y a plus de caniveaux dégagés. Donc, en cas de pluie, il y a un autre sérieux problème qui se pose sur nos avenues.
Notez que dans les prochains jours, Daniel Bumba devra former son gouvernement et présenter son programme à l'Assemblée provinciale.
Tout autre chapitre à présent, le ministre du Commerce extérieur salue l'essence des collaborations de son homologue ougandais qui a autorisé la libération des véhicules congolais bloqués sous transit dans ces pays. Julien Paluku dit avoir obtenu le quitus de son homologue lors de la 14e réunion du Conseil des ministres du Commerce extérieur de la ZELECAF qui se tient à Zanzibar en Tanzanie. Selon Julien Paluku, l'arrivée de ces camions va contribuer à la baisse des prix des poissons et d'autres produits qui se faisaient déjà rare sur les marchés à Beni Oicha au nord Kivu. Par ailleurs, il demande aux autorités douanières congolaises de respecter les règles qui régissent les transits dans la ZELECAF et l'EAC. Julien Paluku au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
C'est un sentiment de satisfaction que nous avons du côté congolais et nous appelons et les autorités économiques et les douaniers de devoir respecter les règles qui régissent les marchandises en transit. Nous voudrions apaiser donc la population de Beni, de Butembo et de toute la partie Est qu'avec notre collègue en charge du commerce de l'industrie des coopératives, nous venons de trouver une issue favorable à ces véhicules qui étaient bloqués du côté ougandais et que désormais avec la libération de ces véhicules, les prix qui ont grimpé inutilement vont devoir rentrer à leur prix habituel pour que finalement les populations puissent vivre en paix dans cette région. Nous nous sommes attendus sur un calendrier qui va permettre que nous puissions assister solennellement à cette sortie des véhicules de l'Ouganda vers la RDC en respect des règles qui régissent la ZELECAF, qui est notre zone de libre-échange continental, et les règles qui régissent l'EAC, qui est l'East African Community, qui ne permet pas qu'on puisse stopper ce genre de véhicules qui sont en transit.
Toutefois, les opérateurs économiques du Nord Kivu ont un mois à dater du 19 juin courant pour écouler leur stock disponible des emballages non biodégradables. De ce fait, il est interdit à la population de produire, d'importer, de commercialiser et d'utiliser les sacs, sachets, films et autres emballages en plastique. Ce délai moratoire est contenu dans un communiqué contraignant signé par les gouverneurs des provinces le 19 juin dernier. L'autorité provinciale motive sa mesure par les souci de protéger l'environnement et les écosystèmes. Pour les ONG environnementales, cette mesure est le résultat de leur plaidoyer pour la lutte contre la pollution par le plastique. Elles demandent que les mesures d'accompagnement soient appliquées. Faustin Yebon, directeur exécutif national de l'ONG AICED, est ici au micro de Denise Lukeso.
Nous saluons vraiment ces communiqués. Néanmoins, il faut des mesures d'accompagnement pour que les communiqués soient vraiment d'application. La première mesure d'accompagnement, c'est la prise de conscience de nous, la communauté, qui est quand même une mesure répressive. Il faut aussi maintenant disponibiliser certains emballages biodégradables, qu'on puisse faire la promotion de ces unités-là de production des emballages biodégradables, c'est-à-dire peut-être réduire les taxes, exonérer ce qui entre dans la fabrication des emballages biodégradables. Et aussi qu'on puisse disponibiliser ces emballages-là biodégradables à un prix qui soit inférieur aux emballages en plastique. Et je pense que petit à petit, on va diminuer l'utilisation et on va aussi diminuer la production. Et petit à petit, on va diminuer ces plastiques et aller vers un monde avant les plastiques. Ainsi, on va protéger nos vies, la vie de nos enfants et même protéger l'environnement et les écosystèmes.
Actualité internationale.
Au Kenya, ce 25 juin a été une journée de mobilisation contre le projet de loi des finances 2024 qui est entré en troisième lecture aujourd'hui au Sénat. Des dizaines de milliers de Kenyans sont descendus dans les rues des grandes villes du pays. À Nairobi, ils ont convergé dans les centres-villes. D'après l'ONG Amnesty International, des violences ont en parallèle éclaté et les policiers ont tiré à balles réelles. RFI a rencontré des manifestants qui affirment avoir vu plusieurs dépouilles. Plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, font état d'au moins 5 personnes tuées par balles et 31 blessées.
L'invité.
Véronique Atanjo, inspectrice principale de la province éducationnelle du Congo central 2, est l'invitée de ce journal. Préoccupée de la faible participation des élèves finalistes à l'examen d'État dans les filières de développement telles que l'agriculture, elle essaye de motiver finalistes et parents de ces derniers à s'intéresser à ces branches en vue de lutter contre la faim et la malnutrition au Congo central. Véronique Atanjo s'entretient avec Nana Pluriche Mambou.
Madame Véronique Atanjo, dans votre adresse lors du lancement de l'examen d'État, vous avez dégagé un aspect important sur la faible participation des élèves dans deux branches de développement dans votre province éducationnelle. Aujourd'hui, quelle est votre opinion par rapport à ces constats?
Le constat, c'est celui-ci. L'enseignement technique, oui, nous avons besoin des électriciens, nous avons besoin des mécaniciens, nous avons besoin des couturiers, nous avons besoin des nutritionnistes, nous avons besoin de tous ces techniciens. Mais la crainte, c'est que notre province à nous est purement agricole. Partout où vous passez, vous trouvez un champ. Si ce n'est pas un champ, en tout cas un potager. Et pour que ça soit bien fait, ces champs doivent être cultivés dans les normes et même les jardins potagers doivent être cultivés aussi dans les normes. Mais on a constaté que très peu d'enfants viennent poursuivre l'enseignement technique agricole où ils seront formés comme des techniciens en agriculture et à faire cette agriculture suivant les normes. Et aussi, non seulement qu'on produise, mais la transformation. Parce que vous avez compris que pour l'industrie agricole, nous n'avons que 53 candidats. Donc, nous ne pouvons pas voir d'ici là tous nos produits agricoles être transformés. Notre souci, c'est bien produire et aussi les transformer. Alors que nous avons la terre arable, nous avons des structures qui nous encadrent, qui pouvaient bien faire en sorte que l'agriculture marche, produise et que la province puisse même exporter. Nous avons constaté ça et ça nous a tiqué.
Ça vous a tiqué, madame, mais selon vous, qu'est-ce qui empêche les enfants à manifester de l'intérêt pour les filières de développement? Et comment peut-on y remédier?
Nous avons hérité d'une situation où les gens pensent que pour qu'on se dise intellectuel, il faut être au bureau. Et je pense que c'est ce qui justifie même notre tâtonnement dans notre développement, parce qu'on avance d'un pas, mais on recule de deux pas, parce que jusque-là, les parents eux-mêmes n'ont pas encore compris que l'enseignement technique est très important et que c'est bénéfique pour les enfants. Mais même les enfants eux-mêmes se sous-estiment quand ils font l'enseignement technique. C'est comme s'ils ne sont pas intelligents et ils pensent que pour se dire intellectuel, il faut se trouver au bureau. Alors nous pensons qu'il faut aller avec la sensibilisation auprès des parents qui des fois détournent les enfants et auprès des élèves eux-mêmes. Et cette sensibilisation, nous devons la commencer à partir du primaire. Parce que déjà, au niveau primaire, l'enfant peut avoir une vision. Et c'est comme ça qu'à ce niveau-là, nous pouvons déjà commencer à orienter la vision de l'enfant. Mais c'est plus au niveau des cycles terminaux de l'éducation de base. Les enfants de 7e ou 8e, à l'issue de ce cycle, il y a l'orientation pour que les enfants eux-mêmes, pendant les tests d'orientation, quand ils ils vont répondre aux questions liées aux tests d'intérêt qu'ils manifestent l'intérêt vers l'agriculture. Et quand on dit agriculture, c'est pas seulement prendre la hausse. J'ai cité 5 options. Dans les filières agricoles, il y a l'agriculture générale, il y a la vétérinaire, il y a la nutrition, il y a l'industrie agricole. Et dans d'autres provinces, il y a d'autres filières comme la pêche.
Que recommandez-vous aux parents et aux enfants eux-mêmes?
Mes chers amis, mes chers frères et sœurs parents, je vous demande de ne pas désorienter les enfants, de faire voir aux enfants que l'agriculture paye. Nous voyons des jeunes gens qui n'ont pas étudié, mais qui se débrouillent avec le potager, mais chaque jour ils ont de l'argent. Il ne faut pas décourager un enfant qui opte volontairement vers l'enseignement technique agricole. Et surtout, si vous avez encore des enfants qui doivent étudier, orientez-les plus vers l'enseignement technique agricole pour le développement de notre province. À nos chers enfants, qu'ils sachent que le temps a évolué. Je pense que le monde ne se développe pas seulement par l'administration et le pays a compris ça. Maintenant, il faut aller vers les options porteuses. Les options porteuses sont les options qui offrent encore des opportunités d'emploi. L'emploi, ce n'est pas seulement que vous allez demander l'emploi, mais que vous puissiez aussi créer l'emploi. Aujourd'hui, si vous avez votre champ, des hectares, vous n'allez pas travailler seul. Vous allez engager d'autres personnes avec qui vous allez travailler. Si vous avez votre usine de transformation, vous n'allez pas travailler seul. Et ça, ça lutte déjà contre le chômage et surtout contre la pauvreté et la sous-alimentation. La sous-alimentation, j'ai dit tout à l'heure que nous voulons exporter nos produits. C'est aberrant qu'on parle de la sous-alimentation dans notre province, là où nous avons les potentialités de produire et de nourrir les gens, pas seulement de chez nous, mais d'ailleurs.
Madame Véronique Atandjo, je vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en onde par Billy Landry Betou sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo à la présentation Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.